Radio Primitive.
Légal depuis 1981.
Ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Eh bien, ce soir, on va commencer par une lutte ouvrière de femmes de ménage à Civaux, dans une centrale nucléaire, dans la centrale nucléaire de Civaux. Ça se passe le 20 février à Châtellerault. La CGT locale, ainsi que la France Insoumise locale, avait fait venir Ruffin et pour son film « Debout les femmes ». Cette projection, suivie d'un débat, était pour le soutenir ces femmes. D'ailleurs, ça a bien marché. Vous verrez, ça a été super. Alors, que dire de... On va l'écouter. Après, on en discutera. J'ai une chose à dire qui est importante pour moi. Récemment, il y a eu le blocage de la centrale nucléaire de Civaux.
Est-ce que tu connais le nom de la société de ménage, de nettoyage?
Oui, c'est... Je ne me rappelle plus.
Honnête?
Non.
Emera?
Non.
Bon, peu importe, c'est pas grave, sachant que normalement...
Ça change tout le temps. Tout le temps.
Ouais, c'est ça, mais normalement, il y a des qualifications spécifiques pour ces hommes et ces femmes qui travaillent dans les centrales. Donc, c'est pas non plus n'importe quoi, mais ils en discutent dans le... Dans le son qu'on va écouter. Je te laisse poursuivre, à moins que tu préfères garder tes explications pour le commentaire
oui,
ensuite.
Oui, on peut en parler après. Je le disais, je voulais dire simplement qu'il y a eu une grève, parce qu'il y a le mouvement des retraites en même temps. Hein. C'est pour ça qu'il y avait du monde, peut-être aussi à Châtellerault. Il y avait l'avenue, bien sûr, de Ruffin, mais il y a aussi la mobilisation naissante, j'espère, contre la réforme des retraites, qui a fait qu'il y a eu plus de 300 personnes à cette projection. Pour une petite ville comme Châtellerault, c'est quand même pas mal. Ensuite, quelques jours après, il y a eu le blocage de la centrale par EDF, la CGT-EDF, et c'était bien marqué d'une manière très très claire, c'était contre la réforme des retraites et pour le soutien aux femmes en grève. Voilà.
Alors on écoute et puis on détaillera après.
Donc nous sommes en grève depuis le 10 janvier, donc demain le 31e jour. Le niveau de salaire, parce que vous pouvez le comprendre, nous sommes au SMIC, nous vivons à 5h du matin, forcément, même travail de 4h, vous pouvez, travail de pénibilité, on n'est pas reconnu, nous sommes invisibles. quoique aujourd'hui, depuis que nous sommes en grève, on a un petit peu plus reconnu. Ceci dit, donc, nous sommes au SMIC pour certaines de mes collègues, ça fait 30 ans qu'elles sont sur le site de Sivo. Elles ont commencé au SMIC, aujourd'hui elles sont encore au SMIC. C'est bon. Nous avons quand même une. Je vais peut-être vous faire rire, mais je ne rêverai pas. Une petite prime de salissure de 3,5 euros brut par mois. Donc, ceci dit, voilà. Est-ce que mes deux équipes vous parlent ? Moi, je suis très fière de par contre. Ouais, je suis très fière du collectif qu'on en est. Fière d'elle, parce que quand même, 31 jours, il faut pouvoir tenir. Donc, quelquefois, le moral. C'est vrai qu'il faut quand même dire merci au syndicat, la CGT de Civaux qui nous épaule énormément. Nous avons une caisse de solidarité en place pour laquelle nous avons la Merci à vous tous parce que vous avez aussi cotisé pour cette caisse. Donc je parle au sein du collectif. Hein. Et puis bah, ceci dit, est-ce que quelqu'un des filles veut parler ?
Comment ça a commencé le premier jour où vous avez décidé de vous mettre en grève? Pourquoi? Comment c'est arrivé?
Alors, comment c'est arrivé? C'est Marie-Agnès qui a commencé. Elle nous a demandé si on voulait faire grève. Donc, moi, je suis allée voir ma collègue, Sylvie. Je lui ai posé des questions. Elle n'était pas trop d'accord parce que, financièrement, voilà, elle avait peur. Et puis, par la suite, nous sommes allés à des petites réunions le matin, bien sûr, en cachette. Pour pas que notre direction nous voit, hein, tout en cachette. Bon, moi, je n'avais pas trop peur parce que je suis syndiquée sur le CNPE de Civaux depuis des années. Donc, je m'en foutais un petit peu. Et puis, par la suite, le café, les gâteaux, on discutait, on se posait des questions comment on allait procéder. Et puis, ça enquillait, voilà. Donc, maintenant, ça fait, on va arriver sur la 7e semaine de grève. Et puis, j'espère qu'on va arriver à avoir quelque chose. Enfin, sinon, on continue. Pas grand chose que ça dire, mais c'est vrai que le premier jour de grève. Au carte. Voilà, il y a la belote, il y a les filles qui ont fait du crochet. On s'est retrouvés parce qu'on est dans le travail, on nous met chacune dans nos bâtiments. Et puis vous arrivez le matin, 5h, vous débauchez à 13h, et puis on se voit juste en débauchant. Bonjour, ça va, bonne journée, voilà. Et puis là, ça nous a permis toutes de nous retrouver, et puis je trouve que ça fait du bien parce que... Ça manquait, oui, ça manquait, voilà. Ça manque de voir du monde, on a besoin, comme tout le monde, de voir du monde. On se lève de bonne heure le matin, donc on se couche de bonne heure aussi. La vie sociale, il n'y a fait pas servante, hein. On a que le SMIC, donc c'est vrai que le week-end, on ne s'en va pas tout en vacances, ou on ne s'en va pas, quoi. Voilà, on ne bouge pas. Donc là, franchement, et ce film veut tout dire, moi je ne l'avais jamais vu non plus. Tout ce qu'il a dit, c'est vraiment ce que nous, on a vécu. Il y a eu des divorces aussi, bien sûr. Hein. Tu te lèves à 4h du matin, tu arrives à 13h, le mari arrive après le soir, mais bon, tu es fatigué, tu t'occupes des enfants, et puis tu te lèves à 4h, et puis voilà. C'est vraiment c'est la vie de beaucoup de femmes, de beaucoup de métiers comme nous. Et puis c'est vrai qu'on se rend compte, là, au bout de 30 ans, parce que moi, j'avais 24 ans hein, quand je suis... arrivé à la centrale dans ce métier, jamais j'aurais dit, en arrivant 30 ans après, à 54 ans, être encore dans un métier pénible, et puis chacune de son côté, au SMIC, et puis on vous dit, mais mesdames, applaudissez-vous, on nous a dit ça pour le Covid, vous voyez, quand ils ont dit le Covid, on n'avait rien, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gants, on nous a dit, mais pas de prime, applaudissez-vous, voilà. Donc je vais peut-être passer un petit peu mettre...
Est-ce que toi aussi, ça a été une expérience, est-ce que toi aussi, depuis 31 jours, c'est une expérience finalement joyeuse?
Oui, on se rend
on est tous ensemble, comme disent mes collègues, on joue aux cartes. On mange des gâteaux aussi, on prend des kilos. On prend des oubliés aussi.
Mais quoi, dans les moyens,
oh non, son...
Tu connaissais le prénom de tes collègues quand même avant ou pas?
Ouais.
On prenait pas le café ensemble parce qu'on n'avait pas le droit, hein, fallait rester dans nos bâtiments, mais on connaissait quand même le nom de nos collègues.
Vous n'avez pas le droit de prendre le café ensemble?
Non, non, fallait rester dans notre bâtiment.
Je pense que vous êtes t'es plus ancienne, il y en a d'autres qui ont connu, qui sont là depuis 30 ans, enfin, tu disais. Est-ce que, il y a 30 ans, vous aviez le droit de sortir de votre bâtiment et prendre le café avec d'autres?
Oui. Alors, oui, parce que c'était ma sœur qui était chef des pharmaciens. Donc, on faisait un peu... Bah oui, mais bon, c'était comme ça, quoi. Hein, donc, j'étais pas privilégiée pour ça. Hein. Donc, c'était ma petite sœur, elle était chef. On faisait un petit peu ce qu'on voulait, quoi. Ouais, on emmenait des gâteaux, on emmenait des bouteilles de cidre, mais ça, c'était avant.
Et quand est-ce que ça s'est durci? Vous êtes là depuis des années aussi ou... Quand est-ce que ça s'est durci, alors, dans l'entreprise?
Ça s'est
dur.
Quand est-ce que vous pouvez plus sortir de votre bâtiment?
Je ne sais pas, mais à chaque fois qu'on y a pris, ça ne peut pas être pire, mais si, en fait, à chaque fois, c'est pire. Et puis,
explique.
Bah, là, c'est qu'on... Tous les 4-5 ans, on est repris par notre société. Et du coup, ils nous payent, soit ils nous payent une vacance, on est obligé de les prendre. Donc, genre, on démarre avec zéro vacances. Là, on va pouvoir les prendre à partir du mois de mai. Et on aura le droit à, je crois que c'est 12 jours et demi. Moins un petit peu, parce qu'on a fait 2 mois 13. Donc, déjà, on n'en aura plus. Et puis, c'est bon. C'est pas évident à dire parce qu'à chaque fois on change de bâtiment. Je les voyais souvent là, et puis depuis qu'on est ISS, je me suis retrouvée dans le bout de la centrale, donc je vois Martin le matin quand on arrive, et après je suis toute seule dans mon bâtiment, je suis à 14h. Ça fait une entreprise hein, qui est un peu. Puis on se fait un peu fâché, donc on n'ose pas aller voir les collègues, donc on reste dans le trou. Bon, même si on a 8 ans, je suis là. Et ce que je faisais avant, je travaillais à la DMR aussi, j'ai aidé des personnes âgées. Et j'ai travaillé dans l'hôtellerie aussi. Et j'ai quand même 66 ans maintenant. Et je commence à être la retraite, oui, j'attends avec impatience maintenant. Je suis fatiguée. Je dois travailler à 68 ans aussi. Parce que je n'ai pas mes indemnités, mes 900 euros. Donc là.
Tu n'as pas parlé du mal à la chaîne. Si. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'entreprise?
Bonne vingtaine d'années.
Comment vous avez vu évoluer les choses sur le 13e mois? Vous avez le droit à un 13e mois ou non? Vous, déjà, vous avez plus le droit à un 13e mois. Parce que les premières qui sont arrivées, les premières, ont le droit à un 13e mois.
Oui,
c'était. Comment vous avez vu évoluer les choses, du coup, dans l'entreprise?
Comme elle a dit, à chaque fois qu'on est repris, on pensait que ça allait s'arranger et finalement c'est toujours pire. C'est toujours pire. Pas du tout, oui, voilà. Ce que quand on a commencé chez Elior, au mois de novembre, ils sont venus avec deux t-shirts pour la semaine. Voilà. Et on a commencé aussi avec la double ISS en étant ailleurs.
Et pendant le Covid, vous aviez des masques et tout ça? Comment ça se passe?
Non. Au début, on travaillait sans masque. Et ce qu'on avait comme gants, c'était juste des gants MAPA. Donc on leur a demandé s'ils étaient au courant de ce qui se passait vraiment par rapport au Covid. Ils ont dit que ça allait faire l'affaire avec des gants MAPA.
Vous avez hésité à venir? Vous avez hésité à venir au boulot ou pas?
Je suis pas venue pendant 15 jours, je suis restée chez moi. Parce que j'avais peur et que... J'étais présente
moi-même. Tous les jours, on était présente et puis moi-même, du coup,
fait, vu mon âge et tout. Mais en fait, la prime, on n'a pas eu. On n'a rien eu, en fait. De récompense, on n'a rien eu. Donc, je t'ai juste dit que c'est pas très, très logique, quand même.
Sébastien, tu viens? Ouais, je vais, du coup, je vais prendre la casquette syndicale. C'est pas grâce à la CGT que vous faites votre lutte, c'est grâce à vous. Nous, on est juste les petites mains à votre service, on va dire, pour faire en sorte qu'il y ait des soirées comme ça qui puissent s'organiser, qu'on fasse connaître votre lutte, mais c'est avant tout votre lutte. Nous, c'est une véritable leçon de militantisme pour tous les camarades qui gravitent autour, parce que, je le dis sans sourciller, en tant que militant, il y a beaucoup de camarades qui peuvent prendre des leçons sur ce qu'elles sont en train de faire, et parce que c'est bien d'en parler. On m'a demandé, je le refais avec volontiers, de vous remercier tous pour la solidarité dont vous avez fait preuve ce soir. On m'a demandé de dire aussi, d'annoncer ce qui avait été récolté là ce soir pour la caisse de solidarité. Il y a 2 300 € qui ont été collectés ce soir. Et pour la caisse de solidarité, la petite blague, c'est qu'on est, on s'est vu au local, elles sont parties en grève, on était quelques-uns à dire ça va durer, sur les salaires, les boîtes, elles lâchent pas comme ça, va falloir y aller, quoi. Et on a fait le petit calcul de dire, mais il faut pas qu'elles perdent d'argent, c'est pas possible, on peut pas, faut qu'elles en perdent le moins possible, il faut absolument qu'elles puissent tenir dans le temps. La petite histoire, il faut qu'on trouve 13 000 € par mois pour alimenter la caisse de solidarité. Et je tiens à remercier dans le département, là, et partout où on va, partout où on sollicite, il y a toujours une solidarité énorme et vraiment ça c'est un grand merci. On a une restauratrice sur Lussac-les-Châteaux qui a carrément dédié, c'était le 11 février, c'était un appel de l'intersyndicale le samedi. Toutes les recettes de la journée, elle les a versées à la caisse de solidarité. On a des producteurs, des artisans, des paysans qui participent à tout comme ça. Donc, je sais pas ce qu'on fait maintenant. Un mot sur ce que j'appelle, ce que Macron a appelé les travailleuses de la deuxième ligne. Là, on voit, ce que vous racontez là en quelques mots, ça en dit beaucoup. Comment, quand on est sous-traité, et souvent c'est sous-sous-traité, et sous-sous-sous-traité, c'est en fait la sous-traitance et de la maltraitance, et que à chaque passage de contrat de l'un à l'autre, même si théoriquement, déjà on doit reprendre les salariés, ce qui est le cas dans votre cas, mais qu'il y a plein de boîtes où c'est pas le cas, et à chaque fois ils serrent les cordons de la bourse. Donc là c'est le 13e mois qui a sauté, parce que vous, au départ, vous aviez le droit au 13e mois. Vous êtes deux à l'avoir, voilà. Vous êtes deux à avoir le droit au 13e mois, puis ensuite ils ont fait sauter le 13e mois, et au fur et à mesure ça se traduit aussi. Quelque chose sur... Est-ce que vous aimez votre travail ou pas? Il faut comprendre ça. Les gens, enfin, tout le monde aime son travail, enfin beaucoup, la plupart des personnes aiment leur travail, mais n'aiment pas la manière dont on leur fait faire leur travail. Et là, typiquement, le fait de ne pas pouvoir se parler l'une l'autre. Normalement, le travail, c'est associé à du collectif, à la sortie de chez soi, à ne plus être enfermé et à rencontrer les autres, éventuellement les usagers quand on est dans un service, mais aussi ses collègues. Et ben, plus ça va, plus on met les gens dans un couloir, on leur interdit d'en sortir. C'est le cas aussi, par exemple, pour les caissières qui aiment leur métier, mais n'aiment pas la manière dont on leur fait faire leur métier, c'est-à-dire qu'auparavant, elles pouvaient discuter avec leurs collègues d'une caisse à l'autre, ou discuter avec le papy qui passait tous les jours, et plus ça va, plus c'est zbam, sourire, bonjour, au revoir, merci, zbam, plus, sourire, bonjour, au revoir, merci, est-ce que vous avez la carte de fidélité? Et donc, finalement, on robotise leurs paroles, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas accepté. Donc voilà, après, on a discuté aussi de qu'est-ce que ça allait donner la réforme des retraites. Enfin, mon téléphone, j'ai Marie-Agnès, j'ai fait sa simulation en direct sur mon ordinateur. Avant la réforme, Macron, c'est 62 ans. Après, si jamais elle passe, mais elle ne va pas passer, ça serait 63 ans et 3 mois. Après, est-ce que vous avez des douleurs dans le corps? Allez, vas-y, dis-moi un peu.
Moi, je me suis opéré du genou. On a souvent des tendinites au niveau du coude, les épaules aussi, le dos, parce qu'on porte des charges aussi, on porte des sacs, enfin, les sous-dos. Oui, on a quand même Les poignets aussi, il y a des collègues qui ont été opérés des poignets. Oui. Du stress, j'ai fait un infarctus il y a 2 ans. Du travail, actuellement de notre responsable.
Ah, la pression de
l'eau. Ouais, voilà. J'ai fait un infarctus.
Moi, j'ai 3 hernies discales et on m'a opéré 2 fois.
C'est quoi le tableau ?
Tendon du pouce qui s'est. Donc j'ai été opérée. Voilà, c'était à cause d'une porte qu'on avait signalée parce que Marlène m'avait remplacée. Elle s'était aussi. Elle s'était coincée la main. Et moi, quand j'ai rembroché, je me suis coincée la main aussi. Je suis allée à l'infirmerie, je ne me suis pas fait arrêter. Et je me suis encore recoincée la main. Et là, je me suis fait opérer le pouce. Oui. Et entre-temps, moi, j'ai eu un accident de travail à cause de cette porte et du coup, ça n'a pas été réparé.
Je dis ça parce que, évidemment, ce sont des métiers où c'est dans les corps que ça travaille. Ça travaille dans les corps. On sait que l'espérance de vie sans incapacité d'un ouvrier d'une ouvrière, c'est autour de 59-60 ans, tandis que l'espérance de vie sans incapacité d'un cadre, c'est entre 70 et 71 ans, en gros. Donc il y a 10 ans de décalage entre l'un et l'autre, et évidemment ça veut dire que quand la retraite, déjà, elle n'est plus à 60 ans, mais qu'elle est à 62 ans, et si jamais elle passait à 64 ans, en fait c'est les années qui restent possiblement en bonne santé, qui sont en train d'être grillées. Donc voilà pourquoi on se bagarre aussi, pour ne pas perdre des années en bonne santé, quoi. Je donne ces stats-là, mais la pénibilité physique, elle n'a pas reculé ces 40 dernières années. La Startup Nation, elle voudrait nous faire croire qu'avec de la robotique, du numérique, de l'informatique, eh ben, tout est plus léger dans le travail. En 1984, quand on interroge les salariés, ils sont 12% à dire qu'ils ont une triple contrainte physique, c'est-à-dire porter des charges lourdes, se baisser régulièrement, être dans des postures pénibles. Donc ils sont 12% à le dire en 1984, et aujourd'hui ils sont 34%. D'accord ? C'est 63% chez les ouvriers, à considérer qu'ils ont 3 contraintes physiques en même temps. Et il en est de même sur les contraintes psychiques. Quand en 1984 on interrogeait les salariés pour savoir s'ils subissaient 3 contraintes physiques, donc être multitâche, devoir rendre des comptes dans l'heure et ainsi de suite, c'était 6% des salariés qui disaient qu'ils subissaient 3 contraintes psychiques, et aujourd'hui on est passé à 35%. Donc en fait, il y a une intensification du travail qui correspond à ce que vous racontez. Ben, chacun est dans son couloir, on ne doit plus se parler, il n'y a plus de temps mort. Par exemple, moi je défends la possibilité d'avoir de la... Je pense que si on travaille, c'est comme nager. Nager, vous ne pouvez pas le faire en étant en apnée permanente. Vous avez besoin d'une respiration avant de replonger. Ben, le travail, c'est pareil. Un architecte, quand il dessine, enfin quand il réfléchit à ses plans et tout ça, s'il va boire un café, on ne considérera pas qu'il a arrêté le boulot, que c'est un temps non productif quand il discute avec son collègue, et ainsi de suite. Moi, je suis député, c'est pas un métier, mais bon, ça serait bien difficile de savoir quand est-ce que j'ai un temps productif, vous voyez. Quand il s'agit des métiers qui sont des métiers physiques, tout de suite... on va me placer sous surveillance et il faut chasser. Il y a une chasse par le capital, on va dire. Il y a une chasse des temps.
C'est terminé ? Bizarre. Bon, enfin bon. Alors, que dire si ce n'est qu'une remarque importante, c'est le fait que là, une femme dit j'ai 66 ans et je suis encore là, je suis encore au turbin. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle n'a pas ses trimestres, comme on dit. Elle n'a pas ses 100, ça va bientôt être 172 trimestres. Il faut rappeler tout de même qu'on en était à 37 ans et demi, jusqu'en 2003, en fait. C'est en 2003 que ça a changé. Et depuis, ça s'est aggravé, puisqu'on on va en être à 172 trimestres. Alors, faut dire aussi que donc, la retraite à 64 ans, ça veut rien dire, hein. Il y a des gens qui peuvent partir à 64 ans avec retraite pleine, sans problème, alors qu'il y en a d'autres qui ne peuvent pas partir, comme cette dame qui nous dit qu'à 66 ans, bah, si elle part, elle n'aura que 900 euros et encore. Donc voilà. Alors ensuite, que dire aussi, si ce n'est que... faut rappeler tout de même, dans l'histoire des luttes contre les réformes retraites, il y en a un paquet. Hein. Il y a une lutte qui n'a pas existé. c'est lorsque c'était le fameux Hollande qui était au pouvoir, avec une certaine Touraine, qui, elle, a, au niveau de la loi, des lois sur les retraites, avait finalement donné un sacré coup de pouce pour qu'on puisse passer de 40 annuités à cette époque-là à 43. Et c'était sous Hollande. Alors on comprend très bien pourquoi le Parti socialiste se fait
discret, ouais.
Discret, hein, puisque effectivement, quand il était au pouvoir, c'est ce qu'il avait défendu et ce qu'il avait d'ailleurs appliqué.
Et d'ailleurs, dans cette loi là qui est prévue, il y a une accélération de ce qui avait été prévu dans la réforme de Touraine, c'est-à-dire qu'au lieu d'augmenter d'un trimestre tous les trois ans, on passera d'une augmentation d'un trimestre tous les deux ans. Évidemment, c'est la social-démocratie, c'est un peu moins indolore, mais à la fin, on se fait quand même niquer. Hein. C'est toujours la même chose. Alors, il y a un mot qu'on pourrait dire par rapport à ceux qui peuvent être dubitatifs quant à l'intérêt de se lancer dans un mouvement de grève. C'est que même si la revendication et du combat contre le truc là qui est en train d'arriver, se mettre en grève et entrer dans un rapport de force, ça peut toujours gagner. C'est-à-dire que même si au niveau global, il n'est pas sûr que ça marche, démontrer une résistance à l'intérieur de son lieu de travail et vis-à-vis de son patron, ça permet toujours d'arracher quelque chose, si ce n'est des victoires immédiates, en tous les cas de participer au rapport de force. C'est une des choses qui risque certainement d'arriver, c'est-à-dire que si la semaine prochaine on se trouve en face de mouvements de grève ici et là dans différentes boîtes, il est évident que les patrons lâcheront du lest pour éviter qu'il y ait une généralisation et que chacun et chacune puisse prendre...
Ce qui est central, c'est les salaires.
Hein, tout à fait.
Puisqu'on t'annonce 10% d'inflation sur ce qu'on mange. Hein. Mmh. Donc effectivement, ça va être central.
C'est sûr qu'on n'a pas grand-chose à perdre par rapport, si ce n'est déjà regagner un peu de temps dans la semaine, de se libérer au moins une ou deux journées dans le mois de mars par le fait de la grève. Il est évident que dans différents secteurs, dans différentes branches, il y aura des négociations qui seront déclenchées pour éviter que les gens rentrent, les travailleurs et les travailleuses rentrent dans un processus de grève et commencent à rejoindre et que ça fasse tache d'huile, quoi. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce son, hein, c'est parce que plein de luttes comme ça ont lieu tous les jours aux quatre coins de la France. Et évidemment, on n'en entend pas du tout parler, surtout quand elle gagne. Et là, en plus, on a une forte illustration de ce que peuvent être des métiers qui ne sont pas classés dans la pénibilité. Hein. C'était évoqué par rapport aux questions qui étaient faites aux travailleuses qui étaient là. Et par rapport aussi à tout ce qui a changé dans le travail. Alors, malheureusement, les gens ont de moins en moins de carrières longues dans la même boîte. Hein. On bouge beaucoup parce que la précarité est évidemment centrale et elle s'est répandue partout. Mais cette intensification d'une part et ce mépris, en tous les cas ce management d'autre part qui était évoqué là, cette absence de liberté, en tous les cas ce contrôle absolu qui est fait par l'encadrement et la hiérarchie à base de consignes totalement absurdes, c'est-à-dire les minutes de pause, le fait de ne pas se parler, etc., etc., sont des choses qui sont fortement relevées et qui sont souvent abordées par les gens qui bossent depuis un petit moment. Il y a une dégradation des conditions, il y a une intensification du travail, il y a une dégradation des conditions.
La sous-traitance, c'est terrible. Hein, je pense qu'elle en parle. Tu demandais tout à l'heure quelle boîte que c'était. C'est une boîte que je ne connais pas sur Reims, Elior.
Hein? Ouais, alors Elior, ils font aussi de la blanchisserie, notamment sur les blanchisseries industrielles, dans les les restos, l'hôtellerie, mais aussi les hôpitaux et certains services publics, mais ils sont aussi du ménage. Alors, à noter que là, on est quand même dans une circonstance particulière, puisque dans le nucléaire, chaque centrale est entre guillemets indépendante sur ses appels d'offres, et les appels d'offres sont régulièrement renouvelés tous les 3 ans, voire tous les 2 ans. Et évidemment, le coût de ces appels d'offres est toujours tiré vers le bas.
Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'au début, ils avaient droit, les deux qui restent, qui sont là depuis 30 ans, ils avaient droit à un 13e mois. Maintenant, depuis au moins 20 ans, ça n'existe plus. Quoi.
C'est ça. Voilà. Et évidemment, le nucléaire n'est pas une industrie comme une autre, mais... c'est une rationalisation comme une autre, et les coûts d'exploitation deviennent de plus en plus serrés, et l'ensemble des fonctions dites périphériques, mais ça va très très loin, hein, puisqu'on est là sur le nettoyage, mais on va être aussi sur l'électricité, sur la plomberie, etc., sur les interventions extérieures, et régulièrement renouvelés par des appels d'offres qui sont tirés vers le bas. Alors, ça veut dire que les salariés qui sont là-haut sont tout le temps sous tension, et que la course au décrochage de chantier, comme on dit, pour les chargés d'affaires, ceux qui vendent les chantiers, ceux qui vendent les services et les travaux, sont bien évidemment de plus en plus difficiles, pour parler de mon expérience personnelle sur le nucléaire dans une boîte d'échafaudage. On avait des contrats qui étaient renouvelés tous les 3 ans, à tel point que les titulaires dans la boîte étaient de moins en moins nombreux, puisque c'était des gens qui avaient des professions à statut. Et donc, on peut référer plutôt faire appel soit à des CDD, mais bien évidemment encore à des intérims, qui étaient évidemment la variable d'ajustement.
Alors, c'est pas dit, parce que bon, elles n'ont pas toutes dit, elles sont 9 à faire grève. Hein. Pourquoi elles sont 9, que seulement 9? Tout simplement parce que c'est les 9 qui sont titulaires, c'est les 9 qui sont en CDI. Les autres sont boîte d'intérim, CDD, et elles ne font pas grève. Alors, ce qui pose un problème, effectivement, pour quand tu fais grève, c'est généralement, c'est pour faire en sorte que le patron cède. Eux, le patron, c'est déjà difficile. Hein. Est-ce que c'est Elior? Est-ce que c'est EDF? En fait, c'est un contrat entre EDF et Elior. Et la négociation est très dure. Aujourd'hui, on en est à presque... cette semaine hein, de grève, ça ne bouge pas. Hein. Je me suis renseigné là pour savoir si c'était fini ou pas cette grève. Non, ça continue et ça risque de continuer longtemps.
Alors la loi est assez claire, notamment dans ce type de chantier. Le donneur d'ordre est responsable non seulement de la sécurité, mais aussi des conditions de travail. Et on a eu à plusieurs reprises... peut-être que dans le secteur du nucléaire, il y a des choses qui sont spécifiques, mais ce qu'on sait, c'est sur le bâtiment ou le travaux publics, le donneur d'ordre ne peut pas donner un marché qui en dessous des conditions dites habituelles de ce marché. Alors, les conditions habituelles, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, là, c'est en général le tribunal qui va décider de ce que sont les conditions dites habituelles. Alors, avec des comparatifs, etc. Bien évidemment, vous imaginez que ces entreprises ont tout un tas de baveux qui vont venir défendre le fait que être payé comme une merde, c'est bien évidemment habituel hein, par rapport au chantier, ou que de toute façon, à ce moment-là, il y avait un problème, etc., etc. C'est aussi intéressant parce que dans le cadre de la loi sur les retraites, on a signalé à de très nombreuses reprises que l'emploi dit féminin, pas parce que il a vocation à être rempli par des femmes, mais parce qu'il est féminisé de fait. Ça, c'est la conséquence d'une société patriarcale, hein, bien évidemment. Les emplois dits de nettoyage et de service sont bien évidemment des emplois qui sont les plus féminisés. Et ce sont des emplois qui sont soit à temps partiel, soit sur des amplitudes horaires qui sont plus grandes, soit sur des conditions spécifiques, telles qu'elles ont été décrites par une des grévistes. Et bien évidemment, ce type d'emploi et leur type de rémunération sont touchés de plein fouet par la réforme et par le fait que ces types de travail et ces travailleuses, avec le passage, tu l'as dit, à 64 ans et surtout les 42 annuités, puisque c'est ça qui est important, 64 ans c'est juste l'âge où on a le droit de commencer à prendre sa retraite si on n'a pas les 42 annuités. Oui.
On en est encore 62. Hein,
ouais, oui, c'est vrai.
On n'a pas encore perdu.
C'est vrai. On n'a pas encore perdu. Et si évidemment on n'a pas la possibilité d'afficher une retraite dite à taux plein, et ben on souffre, on est touché par ce qu'on appelle une décote. Pour le moment, sur ce que l'on sait, l'âge sans décote, l'âge sans, je le dis, je répète parce que là, il faut s'accrocher, l'âge sans décote serait à 67 ans. 67 ans. Est-ce qu'on imagine des gens capables de tenir au boulot à 67 ans pour ne pas avoir de décote? Donc il est évident que y a des gens qui vont partir avec Pinus, quoi, parce que soit ils ne pourront plus, soit ils sont placés en maladie, ou soit en incapacité, ou en invalidité. Et évidemment, là, on a toutes les trappes à pauvreté qui vont se créer. Rappelons encore une fois qu'entre 55 et 65 ans, à peine une personne sur quatre est en activité salariée. Les autres sont soit en pré-retraite, soit en invalidité, soit au chômage, soit au RSA. Donc, visible, il est totalement impossible d'arriver à travailler et à remplir l'ensemble de son carnet d'annuité selon les propositions qui sont faites sur cette loi des retraites. Espérons que
la semaine prochaine
tout ça fermente, même si visiblement c'est des débats qui ont lieu à l'intérieur de la société, mais on a l'impression quand même que quelque part il y a beaucoup de gens qui attendent cette journée avec un peu d'impatience pour pouvoir se mesurer et se compter. Alors ce qu'on sait, tu me le disais tout à l'heure, c'est que il y aura à l'intérieur des secteurs traditionnellement mobilisés des forts taux de grévistes et du coup une mobilisation importante. C'est évidemment les transports publics, la RATP, la SNCF, la fonction publique territoriale, la fonction publique nationale, l'éducation nationale, etc., etc. L'enjeu, ça va être la reconduction le lendemain 8. Espérons également que c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Hein. C'est pas la journée des femmes, c'est pas la journée des droits des femmes. C'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. C'est une journée qui a été mise en place au début du 19e siècle par des révolutionnaires qui avaient une fonction vraiment importante. C'est une journée dans laquelle il y a des femmes qui vont se mobiliser à travers, sur toute la planète. Il va y avoir des répressions énormes dans un certain nombre de pays, puisque il y a des gens qui vont payer cette mobilisation de leur vie, puisque dans un grand nombre de pays aujourd'hui, la position des femmes, si elle n'est pas évidemment complètement géniale dans le nôtre, elle est encore pire ailleurs. Donc il y a des gens qui vont sortir et qui vont prendre des risques. Nous, on aura juste, on va dire, le droit de se promener, de se balader, mais c'est vraiment un jour dont il faut se saisir, puisqu'elle permet de concilier deux choses, à la fois la revendication de l'égalité de droit et de l'égalité de traitement, le droit évidemment à la dignité, au fait de pouvoir vivre librement comme on l'entend lorsqu'on est une femme, et évidemment le travail qui est central dans l'exploitation de la classe féminine, travail qui, comme on l'a entendu ici et comme on le répète ici assez souvent, est particulièrement mal payé et dégradé, et évidemment toute la question du travail gratuit qui n'est jamais évoquée, puisque on parle souvent de la double journée des femmes, à savoir une journée au boulot, une journée à la maison, mais aussi et également toutes les activités qui sont faites et qui sont pas rémunérées. Par exemple, si je garde mon gosse ou si je garde les gosses de ma sœur, eh ben c'est du bénévolat et du babysitting, mais si je le fais dans le cadre d'un contrat ou d'un CESU, c'est du travail. Voilà, c'est ça la différence entre le travail gratuit et le travail rémunéré. Tout ce travail gratuit qui n'est pas comptabilisé, évidemment, sert énormément dans le capitalisme, puisqu'il permet d'économiser beaucoup, beaucoup de choses, et de produire évidemment de la plus-value qui est confisquée, bien sûr, et qui n'est pas payée à sa juste valeur. Voilà. On va se faire une pause.
Oui, peut-être dire quand même qu'il y a des espoirs, puisque on vient d'apprendre que même la CFDT, au niveau des cheminots, a voté à 80% la grève reconductible après le 7. Donc le 8, le 9, etc.
Tout est possible, donc, tout est possible, même le pire.
Tout est possible. C'est étonnant. D'ailleurs, les dirigeants apparemment semblent complètement étonnés, parce qu'ils ont fait un sondage par rapport à leurs militants de la SNCF. Il y aurait la même chose à la RATP. Attendons. Notons que sur Reims aussi, il y a eu quelque chose, un fait divers de lutte importante, puisque des jeunes, la majorité de jeunes de la CGT Commerce a investi Cora à Cormontreuil. On les voit d'ailleurs dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur Facebook, je crois. Voilà.
Ouais. Ok, on n'avait pas eu l'information. Bon, ça fait une petite manifestation à l'intérieur du centre commercial. C'est toujours sympa. Et évidemment, le commerce et la distribution, étant donné les profits records que font leurs employeurs, ont bien raison de demander leur part du gâteau. Alors, on va écouter un peu de musique, puis après on parlera de tout à fait autre chose.
Thank you.
Oui, maintenant on va vous parler un petit peu d'accident du travail. Le collectif Famille Stop à la mort au travail organise donc le samedi prochain à Paris, le 4 mars donc, Square d'Ajaccio dans le 7e arrondissement, ça à côté du ministère du Travail, une marche blanche, et oui, en mémoire des victimes d'accidents du travail. Alors c'est important, on n'en cause quasiment pas. Le pouvoir, bien sûr, se tait là-dessus et fait rien. Alors, en 2021, d'après les chiffres qui sont donnés par la Caisse nationale d'assurance maladie, en 2021, il y a eu 604 565 accidents du travail en France qui ont entraîné un arrêt de travail ou une invalidité. Ça fait plus de 1600 par jour. Au moins 445 travailleurs sont morts au travail. Ça fait donc 2 morts par jour ouvrables. Ceci s'est passé dans l'indifférence générale. C'est vraiment scandaleux, d'autant plus que ces chiffres, ne sont pas comptabilisés les travailleurs clandestins, pas seulement d'ailleurs les sans-papiers, mais aussi des gens qui bossent
au black.
Ne sont pas comptabilisés les agriculteurs, les pêcheurs, les travailleurs indépendants, les agents du service public. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même grave, important. Alors il y a un collectif qui s'est créé. Il y a d'ailleurs, ils ont fait une page Facebook. Vous pouvez la contacter sans problème. Vous tapez « Stop à la mort au travail » et vous avez ce qu'il faut.
Sont pas comptabilisés non plus les maladies professionnelles. Quand on décède d'une maladie professionnelle, on n'est pas comptabilisé comme accident du travail, alors qu'on peut la contracter et qu'elle peut au travail et qu'elle peut se déclarer 5 voire 10 ans après la perte d'activité. Et alors effectivement, c'est des chiffres qui sont assez difficiles à relever et à comptabiliser. Il y a un individu qui s'appelle Mathieu Lépine qui depuis 5 ans maintenant essaye de recenser, notamment par le biais d'un épluchage assez massif de la presse locale, puisque c'est souvent là qu'on en parle le plus, dans les boîtes ou dans les sites qui existent en région, de comptabiliser donc de manière le plus exhaustive possible le nombre d'accidents mortels du travail. On parle d'accidents mortels, on parle pas seulement de gens qui sont invalides après un accident du travail de manière définitive. Tu parlais de 460 personnes, mais une personne qui perd un bras, une main, une jambe, qui se retrouve invalide, etc., etc., c'est bien évidemment des milliers de personnes qui sont concernées. Et surtout, ce qu'on a relevé, ce que Mathieu Lépine relève depuis bientôt maintenant 3 ans, c'est une augmentation des accidents chez les gens les plus jeunes. Et vous entendez souvent le fait de dire que le chômage a énormément baissé, notamment par le fait que depuis 3 ans, 700 000 apprentis ont été embauchés, en tous les cas ont été mis au travail par le biais de contrats d'apprentissage. Signalons déjà tout de suite pour dire que lorsqu'on est apprenti, on n'est pas sûr de rester après au boulot. Donc c'est aussi des contrats qui sont, on va dire, plus que précaires. C'est vraiment des phénomènes qui sont utilisés pour faire baisser de manière fictive les chiffres du chômage. Et évidemment, quand on est jeune et qu'on va bosser et qu'on n'a pas d'expérience et qu'on est mis au travail, eh ben, on est en danger, on risque. On sait, notamment Mathieu Lépine recense le fait qu'il a identifié l'année dernière au moins 10 personnes de moins de 16 ans qui sont décédées au travail. Le plus jeune qu'il avait relevé avait 14 ans. Voilà, dans ce pays, à 14 ans, on peut mourir.
Alors, dans l'autre émission, le Grégor, on a fait plusieurs émissions sur justement des accidents du travail particuliers. Il s'agit des cordistes, dont il faut le rappeler, ce sont donc des jeunes, évidemment, il faut être jeune pour faire ça, et qui escaladent des silos pour les nettoyer, avec des contrats, des conditions de travail complètement horribles. Il y en a plusieurs qui sont morts. Il y a eu des tas de mobilisations là-dessus. Il y a une association qui s'est créée, je ne sais pas.
Comment ça s'appelle, Cordistes en colère?
Ouais, c'est ça, Cordistes en colère. Ouais.
Et on avait recensé ici, notamment à l'occasion d'un procès, des accidents mortels du travail qui s'étaient déroulés sur la sucrerie de Bazancourt, sucrerie sous la férule de Crystal Union. C'est Béguinfer en fait, hein, pour ceux qui feraient pas le lien. Et dans ce lieu, à 3 ans d'intervalle, il y avait eu 3 accidents mortels, dont un où il y avait eu 2 morts, et 3 ans après, pardon, il y en avait eu un nouveau où il y avait eu 1 mort. Donc voilà, on peut risquer sa peau en allant bosser. Je précise une fois de plus que là, on parle d'accidents du travail sur le lieu de travail, c'est-à-dire que ne sont pas comptabilisés non plus les gens qui ont un accident, par exemple un accident de la route, en allant bosser ou en revenant bosser, alors que c'est comptabilisé normalement comme accident du travail dans le cadre des indemnisations, mais c'est pas comptabilisé dans le chiffre de la Caisse nationale d'assurance maladie. Pour ceux qui pourraient s'interroger sur le fait de comptabiliser ça comme un accident du travail, ben si, ça compte. Quand on va bosser, qu'on a les boules et qu'on n'a pas envie d'aller bosser, ou parce qu'on est fatigué, parce qu'on a fait un peu de rab, ou parce que c'est la dernière journée, ou parce qu'on a des horaires de merde décalés, ben forcément, ça fait partie de l'ambiance générale du travail. Alors, on le voit, hein, on dit ça parce que on remet encore ça en lien avec la retraite, c'est que soit on a des accidents du travail quand on est jeune et qu'on est peu expérimenté et qu'on est sujet à pression de la part de l'employeur, à savoir accepter tel ou tel type de tâche, accepter de rogner sur les conditions de sécurité parce que on veut garder son boulot et qu'on a besoin de cet argent pour continuer. On a aussi des accidents du travail qui concernent massivement les gens qui sont en fin de carrière. Parce que forcément, on est fatigué, on est moins attentif, et donc on sait que les accidents du travail interviennent majoritairement, même si elles interviennent tout au long de la carrière, interviennent majoritairement en début de carrière ou à la fin de la carrière. On voit évidemment le lien qu'il peut y avoir entre cette exigence de nous faire travailler plus longtemps et l'insécurité qu'on est susceptible de ressentir ou d'avoir au travail. Alors, on va voir ce que va donner cette marche. C'est aussi, bien sûr, à l'initiative des familles, de gens qui se retrouvent en plus, en général, face à des situations administratives totalement dégueulasses, puisque une fois en plus du chagrin et de la peine qu'on a à avoir perdu un proche, il faut être sacrément courageux pour pouvoir bénéficier après des indemnisations ou des droits qu'on peut avoir pour pouvoir continuer à survivre.
Ça veut dire des rapports avec la justice.
Ça veut dire des rapports avec la justice, et bien évidemment on n'est pas égalité face au patron et à sa capacité de se défendre et de mettre en accusation le travailleur à cause de sa soi-disant négligence, ou en tous les cas de faire porter la responsabilité de cet accident sur le premier concerné, comme s'il n'avait déjà pas assez de peine ou de mal, quoi. C'est souvent le cas, hein. C'est évidemment le fait de renvoyer une responsabilité individuelle, alors que on vient bien de le décrire, c'est bien évidemment une responsabilité de système. C'est un système qui produit les accidents du travail, c'est pas des individus qui viennent et qui font n'importe quoi. Le travail, c'est un collectif, c'est une entreprise qui ne veut pas d'accident du travail, elle sait très bien comment elle doit faire. Elle doit mettre en œuvre des protocoles précis, elle doit rappeler régulièrement les consignes, elle doit charger l'encadrement de faire respecter ces consignes, et elle doit former en permanence ses travailleurs au risque quotidien et au risque, on va dire, inédit qui peuvent surgir lors de situations particulières de travail. Bien évidemment, ces points-là, ils n'ont absolument pas été débattus lors de la loi de débat parlementaire sur la loi sur les retraites. La seule chose qu'on a retenu, c'est l'invective d'un député qui avait traité à ce moment-là le ministre du Travail d'assassin, mais on n'a même pas essayé de chercher à comprendre pourquoi cela avait été prononcé à l'intérieur de l'hémicycle.
Il n'y a eu aucune explication qui a été faite. Les journaleux ont toujours été scandalisés par le fait que un député puisse attaquer un ministre sur cette base-là. Alors effectivement, on peut juger que c'était pas très très malin, en ce sens que il a pas assez expliqué pourquoi il sortait ce mot d'assassin. N'empêche que aucun journaliste n'a rebondi. Enfin, je parle des journalistes des grandes chaînes de télévision. Aucun n'a rebondi là-dessus, en parlant justement des accidents du travail.
Évidemment, c'est pas Olivier Dussopt qui va abattre les travailleurs d'une balle dans la nuque le soir ou le matin quand il se lève. Il a malheureusement autre chose à faire. Mais par là, ce qu'on veut dire et ce que voulait dire cet ce député, c'est que cette loi et ce système et la manière d'organiser le travail, elle produit de la violence et elle produit de la violence sur les corps. C'est-à-dire que les lois qui sont faites, les politiques qui sont menées, elles sont matérialisées dans nos corps et dans nos vies par ces violences qui peuvent aller jusqu'au décès et qui malheureusement ne sont jamais décrites, ne sont jamais rapportées et ne sont jamais matérialisées dans la réalité de ce que ça veut dire. On a par exemple à l'occasion de ces manifestations commencer à entrouvrir un petit peu la fenêtre sur des paroles de travailleurs et de travailleuses qui racontaient avec leurs mots la réalité de ce que ça voulait dire le travail dans leur chair, dans leur quotidien, dans leur souffrance physique. Et on n'a pas encore parlé des souffrances évidemment psychologiques, puisqu'on sait aujourd'hui que les risques psychosociaux au travail sont bien évidemment de plus en plus importants, de plus en plus courants, et c'est aussi de cela dont on devra parler, et c'est aussi rien que pour cela que ça mériterait de claquer une bonne grève générale.
C'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Alain Gore, chaque semaine, sur Nicolas Garrig, à Montpellier, Canal Sud, à Toulouse, et bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos